tout d'abord, bonjour. Je me présente un petit peu. Je fais partie du collectif Télécomix, qui, je vais faire un bref rappel, je le fais depuis 2 ans, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit collectif de Gus qui c'est un mouvement qui est né en Suède et en Allemagne, qui s'occupait plus à l'époque de faire du lobbying auprès de Bruxelles sur différentes lois. Et ensuite, après, il y a eu un virage suite au printemps arabe, où des gens se sont dit qu'ils pouvaient aider comme ils le pouvaient sur le réseau, à faire diffuser diverses informations, etc., pour la Tunisie, le Caire. Aujourd'hui, quelques-uns encore le font pour aider les Syriens à communiquer avec l'extérieur ou apporter parfois un soutien, par exemple. Et donc, je voulais aussi parler de ce qu'a fait Télécomix et ce que ça a enclenché, le fait qu'on ait été un petit peu médiatisé à l'époque de la Tunisie et du Caire. Plus vraiment de façon concrète, ce qui c'est les ponts qui sont créés entre les ONG et Télécomix, que ce soit Télécomix qui a été vers eux ou les ONG sont venus vers nous, et aussi au niveau des journalistes, et par exemple de Reporters sans frontières. En termes d'ONG, il y a Fédération internationale des droits de l'homme, plus d'autres ligues un peu partout dans le monde. Donc voilà, je souhaitais un petit peu parler de ces choses-là et aborder d'autres questions et surtout essayer de voir un petit peu l'avenir, de qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc je ne sais pas à peu près le niveau de la salle. En général, je parle souvent à des gens qui connaissent déjà tout, donc je n'ai pas envie de les saouler à répéter la même chose. Voilà, Télécomix, c'est vraiment un mouvement, c'est des activistes avec un H ou parfois avec un A, qui n'ont pas forcément un niveau technique, informatique élevé. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Il n'y a pas d'élitisme, tout le monde peut aider. Donc il y a des traducteurs, il y a des gens qui simplement ils savent traduire de français à l'anglais, ou en allemand, ou en arabe. Il y a des gens qui sont bons en réseau. Il y a des gens qui sont très bons en chiffrement, en cryptographie. Il y a vraiment un panel assez large de gens qui viennent aider, qui rejoignent le mouvement, rejoindre le mouvement. C'est vraiment quelque chose de très ouvert. Voilà, c'est pas une secte, c'est pas une association. C'est quelque chose qui fonctionne au maximum de façon horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable ou de chef de projet ou de chef de parti. C'est vraiment quelque chose, chacun apporte sa petite pierre ou chacun veut créer son projet. Et donc voilà, ça c'est un peu, pour dresser un peu le portrait de Télécomix. Et ce qu'on peut y faire? Alors ce qu'on peut y faire, c'est un peu tout. Moi je me suis engagé au niveau des printemps arabes parce qu'il y avait quelque chose à faire, que j'avais quelques petites compétences et que j'ai vu en plus que je pouvais par ce biais-là augmenter mes compétences, mes connaissances en les partageant avec d'autres personnes. Donc tout ça c'est toujours du donnant-donnant, on apprend toujours en aidant les gens. Donc voilà, c'est tableau vite fait de Télécomix. On n'est pas beaucoup, on est même de moins en moins. L'essoufflement, moi aussi j'étais essoufflé par tout ce qu'on a fait, même si c'était du hobby ou du loisir, on peut le considérer comme ça aussi. Donc voilà, je voulais aborder le côté qui est à la base pas naturel, que des gens qu'on met, on nous colle souvent une étiquette de hackers, qui est un terme qui défraye la chronique en France depuis quelques temps. C'est à la mode de parler du hackers. Les hackers font sont des makers, les hackers sont des méchants, les hackers s'habillent en Prada sur Paris, c'est à la mode, par exemple. Je me perds un petit peu dans mon fil, là. Je vais revenir sur le... Oui, les ponts qui ne sont pas forcément naturels entre ces milieux-là, qui ne sont pas forcément, comment on peut dire, dans le moule, par exemple, des journalistes ou des ONG qui ne sont pas habitués, qui ont une méthode de travail qui est assez lourde parce que c'est des grosses institutions, de travailler comme ça ou apporter des nouvelles solutions. Donc on a discuté avec eux très longtemps. Les premiers contacts que moi j'ai eus, et puis d'ailleurs à peu près tout le monde, sur du moins ceux qui étaient Télécomix en France, c'était avec la Fondation internationale des droits de l'homme, qui avait remarqué ce qu'on avait fait en Syrie et en Égypte. Et ils ont trouvé ça plutôt cool. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout, comme beaucoup d'autres ONG... Oui, pardon, c'est passé près, c'est ça? okay, qui n'avaient pas pris comment on dit ça, les médias, le virage du numérique. Voilà, ils se sont rendus compte qu'ils ne l'avaient pas du tout saisi, ils n'avaient pas vu l'ampleur de la chose. Et du coup, eux, ça leur, ils avaient des problématiques de sécurité qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'étaient pas du tout confrontés à ça. Et donc, ils sont venus vers nous en nous disant, bon, ben voilà, vous avez fait ça, c'est super bien, comment nous, on peut faire. On a plusieurs ligues ou on a plusieurs personnes sur le terrain qui communiquent avec nous, qui nous font remonter de l'info, qui est de l'info le plus souvent assez sensible. Parce que parfois, ils sont confrontés, évidemment, à des crimes de guerre. Donc, il faut bien faire remonter les témoignages et les photos, et etc., au TPI. Et ben, ils le faisaient un petit peu à la route, à l'ancienne, beaucoup écrit. Après, ils sont passés au mail non chiffré, et des choses comme ça. Mais ils se sont dit, bon, il y a vraiment une problématique. Quand ils se sont rendus compte que les pays comme la Tunisie ou l'Égypte, ou enfin tous les pays du Moyen-Orient et l'autre, surveillaient massivement les connexions, ils se sont dit, oulala, ce qu'on fait, c'est pas cool, on va essayer un petit peu de regarder ce qu'ils font, ces gens-là, là, qui sont pas très organisés, qui font un peu n'importe quoi, mais ça marche. Et donc, du coup, on leur a apporté un petit peu, nous, ce qu'on savait faire, et du coup, on a compris aussi, eux, leurs problématiques qu'ils avaient, et on a appris beaucoup de choses grâce à ça, grâce aux ponts qui se sont faits. Donc, on a fait des formations avec eux, maintenant, on fait des formations pour eux, à l'étranger notamment, où on fait des formations avec des blogueurs, des journalistes, pour leur apprendre basiquement à se former, alors pas à la sécurité, parce que ça fait peur ce mot-là. Quand on dit sécurité informatique, on pense tout de suite à des choses très compliquées. Tout simplement avoir des bons réflexes, alors apprendre qu'il y a des outils qui sont disponibles partout sur Internet, qu'ils aient le réflexe de se documenter, de lire, et on leur donne un petit coup de main. Parfois même, on va leur installer sur leur PC quand ils ont des soucis, quand ils ne savent pas, quand ils ne comprennent pas. Ça, c'est la première chose. Et, donc, c'était la première chose que j'ai faite, c'était au Caire, avec la IFIDH de mémoire. Et donc, on avait fait un atelier sur deux jours avec des journalistes, etc. Et des gens qui travaillent pour les droits de l'homme. Et c'était plutôt concluant, ça leur a bien plu. Nous, de notre côté, on était un petit peu déstabilisés parce qu'on passe tous de... je vais pas faire le cliché du mec barbu derrière son ordinateur qui sort pas de son appartement, mais c'était presque ça. On sortait tous un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'ils nous veulent, on fait des trucs derrière nos ordinateurs, on se rend pas compte, on se rendait pas forcément compte de la portée que ça avait. Et quand ils sont venus nous voir en disant venez nous voir, venez à Paris, venez, on vous emmène au Caire pour former, on a pris un peu une claque, on s'est dit waouh, on fait ouais, c'est cool, c'est sympa. Et à partir de là, il y a eu quand même un peu plus d'échanges et de partage, mais toujours un peu avec de la méfiance. Surtout après, il y a eu Reporters sans frontières. Moi, personnellement, ça me parlait beaucoup plus que la FIDH. La FIDH, bon, je ne connaissais pas, mais quand Reporters sans frontières a commencé à s'intéresser à nous, c'était déjà un peu plus... Alors, il y a le côté égo, un peu plus vers l'horizon. On se dit, waouh, chouette, c'est sympa et tout. Et... il y avait aussi le côté vraiment échange, un partage, un échange, et aussi le côté de la trouille, parce que on n'est pas journaliste, on n'est pas forcément tous du tout ingénieurs. Moi, par exemple, je code très peu, il y en a qui ne codent pas du tout, mais juste, ils savent utiliser les outils, et ils savent utiliser, surtout, ils ont envie de partager. Et je crois que c'est ce petit moteur-là qui fait que ça leur a plu. Le fait que, voilà... Le côté un petit peu hacker underground de l'époque, élitiste, il est dépassé, ce modèle-là. Il y en a certains qui s'y accrochent encore, mais ils sont encore dans leur cave, on ne les voit plus. Donc, ce n'est pas très utile. La connaissance, elle tourne entre eux, je ne vois pas l'intérêt. Le fait d'ouvrir, ça ouvre beaucoup de choses. Et donc, on s'est retrouvés à aider beaucoup de journalistes, et puis du coup aussi à comprendre un peu plus leur métier, leur problématique. On a appris vraiment beaucoup, beaucoup auprès d'eux. D'ailleurs, ça continue. Et alors toutes les formations que j'ai faites et puis que d'autres font, comme Hawking qui n'est pas très loin je pense, ça se dirige beaucoup vers le Moyen-Orient parce que c'est l'actualité, malheureusement. Ça va se faire beaucoup en France sur les 2 ans à venir. Il va y avoir de mémoire une 30aine de formations données dans le milieu journaliste en France, qui est aussi vraiment à la ramasse en termes de sécurisation de leurs données. Ils ne prennent aucune... ils font rien, en fait. Il n'y a rien du tout. Ils ne chiffrent rien. Ils ne protègent pas leur communication. Au-delà de ça, on ne va pas rentrer dans la parano, c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas à dire chiffrez tout, chiffrez vos mails que vous envoyez à votre grand-mère, c'est totalement inutile. On leur apprend vraiment des choses bien particulières, dans un contexte bien particulier. Donc ça, c'est la partie voilà, RSF, FIDH. Ensuite, ça m'a emmené à aller régulièrement au Moyen-Orient, à avoir des contacts avec des gens que j'avais aidés, c'est un grand mot, avec qui j'étais en contact pendant les révolutions arabes. Donc je les ai vraiment rencontrés. Et de là, il y a forcément des choses fortes qui se passent. Et on a envie forcément d'aider un peu plus. Et alors aider dans ces pays-là, c'est super compliqué. Ils n'ont pas forcément le matériel. Et ils ont pas. Il y a aussi un problème de culture, de langue, qui se passe assez facilement. Donc il y avait le problème de pouvoir les aider sur place, au-delà de l'aide qu'on fait avec FIDH et RSF. C'est vraiment aider les gens qui sont sur place, qui ne sont pas forcément blogueurs ou journalistes, mais par exemple, comme ici on est dans un hackerspace, il y a des hackerspaces qui existent. Et on s'est dit, voilà, on peut essayer de leur filer un coup de main dans ces pays-là. On a rencontré beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, on rencontre encore beaucoup de problématiques. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler un petit peu dans cette conférence, parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas souvent d'idées. Je me dis des fois, dans les conférences, ça arrive régulièrement. Il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui soumettent des idées. Donc j'espère, cette fois encore, que j'en aurai. Et c'est régulier, c'est souvent. Donc voilà, si après je vais ouvrir, il y a un micro qui va circuler. Parce que voilà, on est 5-6 peut-être à faire ce genre de choses. C'est très peu. Souvent, on vient nous voir régulièrement. Encore hier soir, j'ai été abordé ici en me demandant, ouais, Télécomique, c'est super, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis nul, je ne sais rien faire, je vais vous aider. Et c'est régulièrement, c'est régulier qu'on vient me voir en me disant, je suis nul, je ne sais rien faire, je veux aider. Déjà, les deux premières phrases, moi, me font peur. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir en me disant, je suis nul, je veux aider, non, c'est la personne, une personne n'est nulle, il y a toujours un moyen d'aider. C'est pour ça que je martèle souvent, il n'y a pas de niveau technique pour aider les gens. Sur Internet, ce n'est pas vrai. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage informatique énorme, on apprend comme tout le monde. Une personne qui sait lire, elle sait appliquer des choses. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. C'est juste de la lecture, de la curiosité. C'est-à-dire que les gens manquent beaucoup, beaucoup de curiosité, surtout. Ça, je le remarque régulièrement. Voilà, voilà. Après... un autre sujet que je voulais aborder, c'était le je l'ai perdu, ça va me revenir. La différence entre comment arriver à aider les hackerspaces qui sont sur place, en sachant qu'ils ont très très peu de matériel. Et quelque chose que j'ai appris il y a un an, pourtant j'y allais régulièrement, j'ai appris il y a un an que ce soit en Tunisie ou au Maroc, ils ne peuvent rien acheter sur Internet. Rien du tout. Ce qui m'a le plus choqué, c'est en Tunisie, à Sidi Boussil, un jeune qui me dit « Ouais, voilà, la prochaine fois que tu reviens en France, Jean-Marc, tu me ramènes le livre de Onfray sur l'athéisme. » Alors je fais « Oui, si tu veux. » Je n'ai pas compris pourquoi il me le demandait. C'est tout simplement parce qu'il ne peut pas le commander. Ils ne peuvent pas commander sur Amazon, ils ne peuvent pas commander sur Fnac, peu importe, tout ça. C'est refusé. Pays d'origine, de la commande tunisique, etc. Niet. Comment ? C'est juste un. Alors j'ai expliqué. Oui, c'est juste un problème d'achat en ligne sur les cartes bleues. Ça vient du réseau bancaire, etc. C'est tout simplement refusé.
Au Maghreb.
Au Maghreb. D'accord. Tout à fait. Alors, c'est possible. C'est possible. Alors, je ne sais pas trop la cause. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des. Il y a des universitaires, il y a des gens qui sont à Sidi Boussi, qui sont à Monastir, des jeunes de 18-19 ans qui en veulent, qui arrivent à apprendre des trucs. Nous, on va pas à l'université, on a une médiathèque, on a des livres, on a ce qu'ils veulent. Eux, ils font la même avec des PDF téléchargés, piratés sur Internet. Voilà où est-ce que ça en est là-haut. Et je comprends pas pourquoi il n'y a jamais eu de pont, ou pourquoi que ce soit... ça m'agace que ce soit un gus comme moi qui envoie un petit mail... Je ne vais pas le citer parce que c'est streamé, à quelqu'un qui est bien placé, pour leur dire, dis donc, les universités françaises, elles ne sont pas foutues d'aller voir des universitaires en Tunisie pour faire des échanges de bouquins ou des échanges de matériel même, parce qu'ils ne peuvent rien acheter. Donc ça, c'est un des points où c'est même un peu plus que ça. Au sein de Télécomics, je vais revenir un peu dessus, c'est un espèce de cluster, en fait. C'est pas une entité Télécomics, c'est tout plein de choses qu'on peut greffer. Il y a le fameux Data Love, je ne sais pas si vous avez vu les stickers partout, qui est un petit peu un concept, qui est, alors, je ne vais pas du tout revendiquer la paternité de Data Love au sein de Télécomics, voilà, je ne sais pas qui l'a inventé, mais nous on l'a repris du moins, et on s'est amusé avec. Au sein de Télécomics, il y a aussi Streisand Me, qui est un petit peu mort, qui était un truc qui permettait de répliquer des sites censurés. Il y a aussi le Télécomics Broadcast System, qui est aussi une espèce de serveur qui va récupérer les vidéos. Notamment, ça a été utilisé au Caire, en Syrie régulièrement, pour tout simplement mirrorer les vidéos qui sont postées sur YouTube. Les journalistes, ils peuvent venir, ils ont des vidéos, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas là pour contextualiser ou analyser, on n'est pas journaliste, on prend simplement des infos sur Internet pour qu'elles soient le plus longtemps disponibles. Voilà, parce qu'on dit souvent Internet n'oublie pas, et donc on essaye de se tenir à ça. Il y a Telecomics Garden qui vient d'ouvrir là, donc c'est une américaine qui était avant sur un autre projet, que je parlerai un petit peu, qui en a eu un peu ras-le-bol, qui dit « Ouais, voilà, j'en ai marre, j'ai envie de faire un truc de potager aux États-Unis, ça marche pas. Bon, » on fait « Ouais ». Ben voilà, j'ouvre Telecomics Garden. Donc voilà, elle a lancé ce projet-là. Elle a fait un petit site, tout simplement. Voilà, c'est vraiment Telecomics, on fonctionne comme ça. Tu as une idée, tu fais. On te met de la ressource à dispo si on en a. Donc on a hébergé le serveur. Enfin, on a hébergé son site web. Elle a fait son petit Telecomics Garden. Elle l'a ouvert depuis, si je ne me trompe pas, 15 jours. Elle en est déjà à peu près 170 soumissions. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent. Il y a une espèce de Wikipédia qui a été installée. Les gens soumettent des idées. Donne des idées. Voilà, moi j'ai mon potager en France, je m'y prends de telle façon, je plante des graines, machin, tout ça. Voilà, j'explique ça vraiment pour faire comprendre que Télécomics, c'est pas que des crypto-terroristes mangeurs de bébés, comme dit Lefebvre. C'est pas que du hacking débile, c'est des trucs très utiles, très débiles aussi. Il y a bougé un peu de tout. Et donc, au sein de Télécomics, j'ai envie, là je vais lancer le projet très bientôt, ça va s'appeler We Rebuild, nous reconstruisons. Et je vais mettre, je vais relancer un petit peu le truc, de façon un peu plus large, un peu, pour retrouver un peu de fun. Et dedans, il y aura notamment ça, essayer de qu'on prenne conscience qu'il y a eu une révolution. Alors, la France, elle a, de façon officielle, avec la Tunisie, elle se comportait limite. Voilà, j'ai eu des contacts avec des gens du Theta Lab, Marc, etc., qui a trouvé l'idée assez géniale. De pouvoir essayer d'envoyer du matériel là-haut, c'est pas toujours évident, parce que moi, quand j'y vais, avec RSF ou d'autres organisations, ou la Suisse, qui m'envoie aussi régulièrement, ils me payent le billet, mais quand j'y vais pour des choses comme ça, je m'autofinance. C'est très compliqué. Très, très dur de s'autofinancer. Est-ce que là, essayer de faire quelque chose de... Toujours dans l'esprit, alors ce sera pas associatif, négatif. Je veux toujours rester dans l'horizontalité le plus possible, et essayer de renforcer un peu les ponts. Essayer de voir si on peut mettre juste des gens en relation, si on peut se servir du symbole un petit peu télécomique, qui est un petit peu connu médiatiquement, ça aide toujours à essayer de mettre en relation des universitaires, en ce moment en Tunisie, il y a beaucoup, beaucoup de projets de mecs qui font de la web radio, qui est un truc qui marche bien. J'ai jamais compris pourquoi en France il n'y en avait pas. Des petites comme à l'époque des radios pirates pour les gens un peu plus âgés. On peut faire la même sur Internet. En Tunisie, ils le font de plus en plus. En France, c'est totalement mort. Voilà, il y a des trucs, il y a des échanges à faire avec eux. Oui, il y a trop de portes de télévision, tout à fait. Donc voilà, il y a tout plein de choses. Et ne serait-ce que l'exemple de la web radio, quand j'y suis allé, j'étais avec la responsable de RSF Tunis, qui a un bureau là-haut. Elle organisait une espèce de petit colloque où elle réunissait toutes les radios qui se montaient en Tunisie. Et les mecs, alors. Il y a beaucoup de radios pirates, ils s'éclatent les mecs, ils transforment leur appartement en studio radio. Voilà. Il y a la cuisine, il y a le ampli qui est posé, etc. Ils s'éclatent vraiment, chose qu'on ne fait plus en France, du tout. Donc il y a quand même beaucoup à aller voir chez eux, parce qu'ils nous rappellent ce qu'on était capable de faire, nous, à bien des égards, ne serait-ce que pour... oui, alors je ne vais pas rentrer dans la politique, ils n'ont peut-être pas eu mieux. donc voilà, il y a beaucoup, et ne serait-ce que pour Internet, c'est-à-dire qu'en France, en France, on entend beaucoup le discours neutralité du net. Internet, c'est du client-serveur, donc il y a beaucoup, beaucoup de conférences, il y a beaucoup, Benjamin Bayard le répète régulièrement, LQDN, etc. Ils font beaucoup de prosélytisme et de militantisme. Sauf que, à chaque fois, quand je demande qui a un serveur chez soi, si j'enlève le mot torrent, il y a 2-3 personnes qui vont lever. 1, 2, 3, voilà, c'est ça. Ah ouais, ouais, mais à chaque fois, je prêche pour des convaincus, donc ça ne m'amuse plus. par contre, la plupart des gens, ils écoutent le discours, ils font « ouais, ok, c'est cool, je peux faire savoir chez moi », ils repartent de la conférence avec ça en tête, seulement ils arrivent chez eux, ils n'ont pas... Alors oui, tout le monde va me dire « ouais, il y a tout dispo sur Internet ». Oui, sauf que les gens, ils écoutent ce discours-là, quand je parle des gens, ça va dire « on va tomber sur Madame Michu », pardon, ils n'ont pas vraiment un portail ou quelque chose qui leur permette d'accéder très rapidement, qui va leur expliquer de façon claire, nette et précise comment faire serveur chez soi. Pas forcément serveur torrent, vraiment. Serveur, ça veut dire héberger un petit serveur web chez soi. Vraiment des choses concrètes. Donc le discours, il est là, il est bien en place, le prosélytisme, il avance. Mais concrètement, il n'y a toujours rien. Moi, j'habite Pau, il y a la fibre. Je me suis amusé à faire un petit Nmap de tout Pau en fibre. Il y a 5 serveurs HTTP. Les mecs, ils ont la fibre chez eux, ils consultent leur mail. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de boulot et il faut vraiment aller plus loin que le prosélytisme de conférences, etc. Il faut vraiment mettre à disposition des trucs, des sites. Voilà. Et là, je vais essayer de m'y atteler cette année tranquillement, voire même, pourquoi pas, essayer la mode du Raspberry, etc. Ça fonctionne. On peut très bien imaginer une petite boîte avec le serveur dedans. Les gens, ils mettent ça chez eux, pouf, et ils mettent leur petit site web, ils mettent leur page, peu importe, qui passe de l'état de consommateur, un petit peu, à fournisseur de contenu. Voilà, qui serait approprié un petit peu leur blog, plutôt que les mecs sur Blogspot ou toute autre plateforme de blog. Ils peuvent l'héberger chez eux, et ce sera un peu plus cohérent pour certains qui sont déjà convaincus du truc, mais qui n'ont toujours pas de serveur chez eux. Pas qui milite, ouais, moi je suis pour ça, je suis pour ça. T'as quoi chez toi? Ah ouais, moi mon blog il est chez OVH. J'ai rien contre ça du tout, c'est pas une critique, c'est voilà, mon blog il est chez OVH. Bah, pourquoi tu le fais pas chez toi? Ouais, visite tout ça machin. La visite, bah les gens ils viennent, ok, ta bande passante elle est foutue, ils reviennent dans une heure. Hein. L'article il va pas partir. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de choses que je veux un petit peu relancer dans le truc au sein de Télécomics, ce côté-là un petit peu plus concret que le prosélytisme qui est toujours utile et que je continue à faire. Donc voilà, je pense que j'ai pas été trop long. Donc si vous voulez des questions, des idées, des critiques, tout plein de choses, je suis preneur.
Pour les gens sur le streaming aussi, peuvent poser leurs questions soit sur Twitter, soit sur IRC, Channel Theta Lab sur Freenode.
Bon, je vais mettre directement les pieds dans le plat. C'est au sujet de l'auto-hébergement. C'est très bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout auto-héberger chez soi. Les mails, par exemple, c'est compliqué. Et en tout cas, c'est mon opinion. Et il y a un problème de visibilité. Si jamais on héberge un blog chez soi, il y a un problème de visibilité, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de visites. Que l'information sera moins vue, on va dire, si jamais l'information est intéressante, elle sera moins vue que si jamais on l'a mis sur Facebook ou je dis pas que c'est bien de le mettre sur Facebook, non, mais oui. c'est un problème.
Alors oui, techniquement, héberger un serveur mail, c'est un peu plus compliqué. Ça, je suis bien d'accord. Un peu plus compliqué, va falloir lire, va falloir faire des petits trucs, des petites magouilles. Ensuite, héberger son blog ou autre chose, peu importe, un petit truc web radio de 19h à 20h pour s'éclater, voilà, j'ai un petit web radio. En termes de visibilité, je ne vois pas pourquoi ce serait moins de visibilité. Aujourd'hui, tu peux très bien mettre ton blog, avoir un compte Facebook et puis dire, ouais, voilà, les Facebookiens, j'ai mis mon blog, allez le visiter, avoir un compte Twitter, tous les réseaux sociaux qui existent. Voilà, ensuite, avoir un blog pour se dire, ouais, je vais taper 2000 hits par mois, bon. C'est une autre problématique, là. Avoir un blog pour expliquer un petit truc dans un contexte bien particulier, tu vas forcément toucher la communauté avec laquelle tu gravites, parce que sur Internet, c'est toujours un système de communauté. Faut pas... voilà, ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, oui, alors ensuite, je te rejoins, c'est... mais je pense que ça vient, la personne va se faire un petit blog, après, elle va se dire, tiens, bon, un petit serveur mail. Oui, elle va galérer, hein. Heureusement, c'est bien. Moi, j'ai arrêté d'aller à McDo il y a bien longtemps. Ouais, j'aime bien faire des petits trucs qui ne marchent pas du premier coup. Il y a Kota Atypique qui a fait des trucs de fou.
Je parlais aussi d'un problème technique, du fait où le mail vaut mieux que le serveur soit 100% up. Et oui. C'est, même si techniquement le protocole s'accommode bien des coupures, c'est mieux d'avoir son serveur mail 100% up.
Je suis bien d'accord. Oui, non, mais je propose quelque chose. Je sais qu'il y a des problèmes techniques, tout le monde n'a pas la fibre. En même temps, la DSL, avoir un blog, ça peut... c'est pas bon. C'est vraiment pour que les gens ils le fassent, qu'ils fassent l'effort d'eux. Et derrière ça, c'est aussi quand même l'idée aussi que les gens ils changent un petit peu de vision, parce que oui, ok, nous on est entre nous, on sait très bien qu'Internet c'est pas ce qu'on nous vend. On le sait tous ça. Il faut que ça dépasse un petit peu. Tout ça, ça s'est perdu vraiment. Ça s'est perdu. Moi, quand j'ai commencé Internet, c'était waouh, je vais me faire un peu bâcher. C'était j'avais Windows et il y avait le truc là, EasyPHP.exe. Un petit exe où il y avait tout embarqué. Il y avait un serveur web, PHP, MySQL de mémoire. On cliquait ça, on était hébergeur chez soi. Voilà, c'était bon, c'était sale, c'était peu importe. Il y avait, ça ramait, mais on pouvait avoir sa petite page, son petit truc, son petit machin. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, plus personne ne le fait. Il n'y a même pas l'effort d'eux. Et ne serait-ce que relancer l'effort, je pense qu'automatiquement, les gens vont se dire je ne suis pas que consommateur, je n'ai pas besoin de Facebook, je n'ai pas besoin de ça pour faire mon truc.
Coucou le stream. Je veux juste rajouter un truc par rapport à l'auto-hébergement et puis par rapport au fait que tu as dit que je faisais des choses folles. Donc je n'ai pas streamé du porn sur mon serveur hébergé chez moi. Non. Je vais le signaler quand même, si au cas où. Sinon, c'est ce qui est hyper important dans la logique auto-hébergement, c'est que vous apprenez des choses. Vous galérez quelque chose comme pendant un mois pour installer votre petit serveur mail, vos petits DNS, votre petit serveur web. Je crois que j'ai un serveur Jabber aussi, donc vous en galérez à installer XMPP aussi. Oui, mais après, vous avez appris plein de trucs. Vous savez comment marche un DNS. Vous savez c'est quoi un serveur web. Vous savez comment on fait des mails. Et c'est hyper important. Vous êtes en prise avec ce que c'est Internet. Et savoir comment ça marche, le réseau, c'est bien. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Vous galérez beaucoup. Mais je connais quelqu'un qui a énormément galéré avec ses mails, notamment. Et qui est tellement heureux maintenant, quoi. Parce qu'il sait comment on fait.
Oui, il y a le côté aussi satisfaction d'arriver à faire quelque chose. Et ça, sur Internet, les gens ne l'ont plus. On leur sert du tout cuit, c'est tout est en ligne, tout est mis en page automatiquement. Et ça va être très compliqué, je le sais que ça va être très compliqué de faire pas machine arrière, mais de reconstruire un petit peu, de retricoter un petit peu tout ça. Et j'ai la prétention d'essayer de faire ça avec Urobuild, les gens viendront, aideront, pour le fun, toujours pour s'amuser. Et elle l'a bien expliqué, il y a vraiment, on apprend tout plein de choses, on apprend qu'est-ce que c'est qu'Internet, tout simplement. Déjà c'est assez énorme quand on se dit, ouais, c'est pas le web, c'est Internet, c'est encore autre chose. Oui, question.
Moi, c'est par rapport à avoir la curiosité de faire tout ça, de faire ces démarches pour installer un serveur web et tout comme ça. Je pense que on est ici, en tout cas, je parle en France. Notre culture fait que on est tout petit quand on est au collège, à l'école, tout ça. On est formaté à écouter en fait, à faire simplement et qu'on nous prémâche le boulot. Et qu'on écoute et qu'on ingurgisse et qu'on ressorte notre l'info, quoi. Et donc on n'est pas du tout habitué à être actif en fait, proactif dans cette curiosité et comme ça. Et je pense que tant que ça bougera pas de ce côté-là, quoi, qu'on nous apprendra pas tout petit à.
Oui, alors tout petit.
Enfin,
oui.
Tout petit, non.
Non, mais oui. Après, on peut pas rentrer dans le.
Il faudrait qu'on soit plus actif, je pense.
Oui, plus actif. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelques écoles qui commençaient un petit peu à. Alors malheureusement, le premier truc qu'ils apprennent à leurs élèves, c'est de créer une page Facebook. Désolé, c'est chaud. Mais malheureusement, j'ai vu ça. Alors c'est pas top, c'est pas génial. Ils apprennent à l'école. Voilà, les enfants, ils apprennent tout de suite à communiquer. Sur Facebook, donc ça c'est pas terrible du tout. Non seulement ils communiquent pas, en fait, ils sont juste consommateurs. Ils apportent quelque chose à Facebook, mais il n'y a pas encore de création. Mais c'est faisable. Hein. Moi, je suis très optimiste. Je suis toujours optimiste. Je sais que il faut le faire. Et quand il y en a un qui le fait, deux qui le fait, voilà, ça se propage. Et il faut que ça marche.
Bonjour.
Bonjour.
Ma question, en fait, moi j'héberge mon serveur pas chez moi, mais ici, chez Tête à Neutral. Et par exemple, on parle justement des enfants et de Facebook et tout ça. Et on, avec, enfin, moi j'ai des gamins de 8 et 10 ans. Et on se pose la question, on dit ça fait suer, quoi, on va pas leur créer un compte Facebook. Quoi. On a envie plutôt d'aller d'héberger le propre réseau social, qu'ils aient leur réseau social avec leurs copains du quartier et qu'ils discutent entre eux. Il y a des possibilités pour ça ou...
Ah oui, carrément, oui. Alors, en termes de Facebook-like communautaire, comme ça, j'ai pas de nom. Il y a StatusNet, qui est un Twitter voilà, où on peut se mettre entre nous. On en a un au sein de Télécomics, il y en a d'autres qui existent, etc. Mais c'est typiquement, voilà. Je kiffe ce genre de choses. C'est super, ce genre de projet. C'est vraiment, il faut promouvoir, il faut essaimer ce genre de choses. Et je pense que le premier qu'il fera, ça se dupliquera. Voilà, ça. Et vraiment, typiquement, si Télécomics peut aider, vraiment, alors je veux parler en termes de com pure, parce que c'est de la com, ouais, il n'y a pas de souci. On aide le truc, on pousse. Voilà.
Je voudrais répondre aux gens qui pensent qu'il faut absolument être soi-même sur Facebook par l'exemple qu'on a vu au niveau de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et l'automédia de la ZAD. L'automédia de la ZAD n'a jamais joué le jeu des grandes plateformes commerciales, c'est toujours été un média auto-hébergé et mis, alimenté par les militants sur place. Et en fait, il y a d'autres gens qui cherchent très bien de relayer l'information sur les plateformes commerciales de fichage, il n'y a pas de problème. Quand on a du contenu intéressant, en fait, ça se fait tout seul. Et je vais profiter de parler de la ZAD pour poser une question parce que j'ai vraiment eu l'impression que Télécomics s'était fait piéger par la frime et les médias dans le sens où on a pu lire des articles qui disaient « Ouais, Télécomics est dans la ZAD ». Pour avoir été sur place, en fait, les personnes qui s'occupaient de gérer site, par exemple, ou de faire qu'il y ait de l'accès à Internet sur la zone à défendre, a priori, n'ont jamais croisé de personne vraiment qui s'impliquait pour participer à... Enfin, en tout cas, d'avoir vu les articles complètement fantasmatiques, quoi. Alors, je veux bien que tu aies un commentaire là-dessus.
Deux commentaires. Je commence par Facebook. Facebook, moi, j'arrête d'en parler, réellement. J'arrête de dire Facebook, c'est du mal, n'y allez pas, ça sert à rien, c'est un discours stérile. Les gens, ils y sont au jour d'aujourd'hui. Ils continuent à parler de leur soirée beuverie. Je m'en fiche. Je veux pas être un anti-Facebook parce que ça sert à rien. Tant qu'on n'a rien à proposer, on se tait. Ça juste ne marche pas, ce genre de discours. C'est comme à l'époque, Skype, ouais, Skype, c'est nul, il n'y allait pas, machin. Ouais, mais il n'y a rien à proposer. Donc, c'est un peu embêtant de dire, c'est nul, n'y va pas. Et le mec, t'as quoi à me proposer? Ah, j'ai Jitsi, ça marche sur trois pattes. Tiens, il y a Kim.com qui va sortir un truc méga super truc. Ok, fais-lui confiance à ce mec-là. Je ne veux pas être anti-Facebook. Des gens l'utilisent, ils pensent que c'est cool. On n'a pas trop grand-chose. Enfin, on peut leur proposer... Faut vraiment rentrer dans une logique de proposer des choses. Installer même des choses, pourquoi pas, faire la démarche. Il y avait bien à l'époque, il y a encore des lugs qui font des install parties, donc des bénévoles qui prennent de leur temps pour installer des Linux chez les gens. On ne voit pas pourquoi est-ce que nous, on n'étendrait pas ça à nos combats. On se prendrait un samedi, comme il y a les crypto parties. On peut très bien aussi faire ce genre de choses, des hosting parties, apprendre à des gens, voilà, à monter un petit truc. Par quartier, par exemple, pourquoi pas, un petit quartier, ils ont, voilà, il y a un petit serveur qui est chez quelqu'un dans le quartier, tout le monde va se connecter dessus. Voilà, tout simplement. Télécomics Notre-Dame-des-Landes. Je ne vais même pas te répondre, je ne sais pas. Je vais dire des bêtises. Honnêtement, je vais dire des bêtises. Télécomics, c'est plusieurs personnes, plusieurs gens. Je ne suis pas, comme tu vois, je serais incapable de te dire Télécomics Syrie. Je connais juste une ou deux personnes qui sont dessus. Télécomics Notre-Dame-des-Landes, j'en ai entendu parler il y a déjà un petit moment, qu'effectivement on a dû lire le même article, qu'ils avaient été soi-disant faire de la pirate box ou je sais pas trop quoi. Non, c'est pas ça. Du Wi-Fi ou... Je peux pas te répondre très honnêtement. Si c'est des gus qui ont dit ouais, Télécomics y est, qu'ils ont pas été, tu donnes les noms. Voilà, Internet fera le reste. Hein, puis c'est tout. Mais je peux pas te dire. Il y a un nick comme ça, on en discutera si tu veux après. Il n'y a pas de souci, mais ensuite, Télécomics et les médias, je suis assez d'accord avec toi. Qu'il y a eu un bon escient, un mauvais escient, je ne sais pas. L'image que ça donne auprès des gens de Télécomics, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la presse française, mais alors dans la presse plus internet, moins médias, stream, etc. Chacun au sein de Télécomics, on est plusieurs Gus, on a chacun notre façon de faire, notre personnalité, notre façon de dire oui ou non à des médias. Moi, j'ai jamais accepté d'être filmé à la télé, dans n'importe quelle émission que ce soit. La seule chose que je veux faire, c'est toujours dans le même esprit, c'est de travailler avec des journalistes. Quand des journalistes aujourd'hui font des articles où ils vont parler de quelque chose de technique, aujourd'hui il y a un truc qui est assez sympa qui se passe, c'est que les journalistes font la démarche de m'appeler moi ou d'autres pour demander est-ce que je dis une connerie, est-ce que j'écris une connerie. Moi je trouve ça assez cool. À l'époque il n'y avait pas ça, ils écrivaient leurs conneries, personne n'était là pour les bâcher. Aujourd'hui quand ils écrivent des conneries, ils se font défoncer un peu partout, donc ils font attention. Voilà, je suis toujours dans cette démarche-là. Ensuite, je ne suis pas responsable de ce que les autres font, disent, au nom d'eux.
Alors la première remarque, une remarque question sur l'IRC Tétalab. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les réseaux de reconditionnement d'ordinateurs, la SNALIS, l'ALIS, EMA, Ubuntu, etc., et faire une passerelle activisme et e-inclusion fracture numérique?
Qui a parlé?
C'est moi. C'est Ban sur IRC qui te pose cette question.
Ban. Répète-moi la question rapidement, je m'excuse.
Pourquoi ne pas s'appuyer sur les réseaux de reconditionnement d'ordinateurs, comme SNALIS, ALIS et Mabuntu, et faire des passerelles activisme et inclusion de fractures numériques?
Ok, bah, il connaît la réponse. Hein.
Et voilà, il voulait avoir,
qu'il
ton,
fasse.
Il voulait avoir ton avis.
Oui, pourquoi pas, mais je suis... Oui. Je n'ai pas forcément tout pensé. D'ailleurs, je ne connais pas toutes les plateformes dont ils parlent. Je sais qu'il y a, oui, il y a des associations que je connais un petit peu dans, là où j'habite, qui font du reconditionnement. On peut lancer quelque chose là-dessus. Ban, il le sait très bien. Je vais juste le rappeler. On est 3-4 Gus en France, un peu plus quand même, qui sont déjà bien occupés. Mais si d'autres personnes ont des idées, ils le font. Télécomics, ils le font avec ou sans Télécomics, peu importe, mais par contre il n'y a pas de souci, ils peuvent venir nous voir en disant voilà, on a besoin d'un coup de pub. Des coups de pub, moi, très honnêtement, je suis au sein de Télécomics depuis 2 ans dans ce téléphone. Le truc que j'ai réussi à faire, c'est que c'est blindé de journalistes. Voilà, c'est clair, je n'ai jamais caché, j'ai pas mal de contacts avec les journalistes. Si j'ai fait ça pour que ça ne serve à rien, ça me fait chier. Voilà, j'aimerais bien, voilà, il y a quelqu'un qui a un projet, ouais, machin, j'aimerais bien. Si je peux lui faire avoir un article dans un des médias, je le fais. Sinon, je me suis cassé le cul pendant 2 ans à discuter parfois avec des médias. C'est pas pour rien. J'ai pas cité le Figaro, c'est pas vrai. Donc voilà. Mais voilà, non, il faut vraiment que ce soit utile. Vraiment, Télécomics, c'était un cluster qui a été fait pour ça. Dans le cluster, on a un how-to, c'est-à-dire comment faire un cluster comme Télécomics, c'est marqué dedans. C'est prendre des contacts avec des journalistes, avec des politiques, avec vos voisins de quartier, pour créer une espèce de maillage, des contacts, du réseautage, tout simplement, pour faire du lobbying ou pour faire passer des infos. Faut que ça serve.
Oui, dans ce que vous avez présenté sur les activités, il y avait deux... En gros, j'ai retenu deux catégories. Il y a des gens qui ont besoin maintenant de savoir, de s'approprier Internet, on va dire, parce qu'il est déjà un peu tard. Des gens qui sont dans des pays, dans des situations difficiles, les journalistes, c'est les deux cas que vous avez évoqués. Vous avez parlé de autre chose qui est assez différent. C'est pour le grand public. Ici, on est au THSF, donc on est beaucoup à connaître des raisons philosophiques ou des raisons que j'appelais esthétiques pour se réapproprier Internet. Par contre, moi, ça fait 30 ans que je joue avec des ordinateurs. Il y a une personne, une fois, qui est venue me voir pour me demander qu'on installe un serveur. C'est mon petit-neveu qui voulait faire son serveur Minecraft. Et quelque part, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça veut dire qu'un gamin de 10 ans peut se trouver des raisons d'avoir un serveur chez lui. Mais globalement, si moi je devais aller voir des gens et essayer de leur convaincre qu'ils devaient avoir un serveur chez eux, je n'aurais pas d'argument. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un message, au-delà des raisons qui nous touchent à nous, est-ce qu'il y a un message qu'on arrive à faire passer pour expliquer à des gens pourquoi ils devraient savoir que leur site web ils pourraient l'héberger chez eux et pas forcément chez quelqu'un d'autre?
Oui, alors le message, il est, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le message, il est régulièrement répété, rabâché par plusieurs personnalités. On connaît Benjamin Bayard, la QDN, FFDN, tous les petits hébergeurs associatifs, etc. Beaucoup de militants le font. Ensuite, je reconnais que c'est très très compliqué de parler aux gens qui ne sont pas du tout dedans, on va pas, voilà, je le reconnais, c'est pas évident. Il faut travailler la com, c'est des trucs qu'on sait pas forcément faire, nous, hein, du tout. Moi, personnellement, je sais pas travailler ma com pour discuter avec quelqu'un qui utilise Internet bêtement, voilà, enfin bêtement, comme un consommateur, pour essayer de le. S'il n'en a pas l'utilité, je suis bien d'accord, ça sert à rien. Je peux comprendre que quelqu'un dit oui, j'ai pas utile d'avoir un serveur. Ensuite, il faut déjà au moins qu'il le sache déjà. Je suis pas sûr que, à mon avis, je suis pas sûr que la plupart des gens savent qu'ils peuvent faire quelque chose derrière leur box. J'en suis persuadé même. La plupart disent voilà, ils ont leur box SFR, peu importe machin, ils branchent leur ordinateur, leur tablette, etc. Ils ont pas l'idée de, ils savent même pas. Moi, j'en suis persuadé qu'ils ne savent même pas qu'ils peuvent héberger un site. Parce que pour eux, un site, c'est, on leur a vendu ça. Un site, c'est Google, c'est machin, c'est des gros trucs, c'est compliqué ou c'est institutionnel. Alors, non, et il y a la facilité aussi. Et le discours de oui, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et à la limite, s'il y a des communicants qui veulent donner un coup de main, tant mieux.
À savoir aussi, par expérience, il y a plein de gens, et notamment des jeunes, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un serveur.
Oui,
hein, déjà, il faut juste expliquer comment fonctionne Internet.
Voilà.
Ils ne savent même pas qu'il y a des gros tuyaux sous la mer, etc. Quoi. Personne ne sait comment ça marche.
Oui. Et alors moi, je rencontre un problème, on le rencontre en ce moment à Pau, un peu partout, c'est comment amener le public à ça. Comment est-ce qu'il les faire se déplacer à des événements comme THSF et puis leur expliquer ça, c'est pas évident. C'est très compliqué. On peut s'amuser à faire des petits pièges, hein, aussi on peut organiser des petits trucs qui vont leur parler, et puis... essayer de glisser le message, leur faire comprendre, etc. Mais c'est très compliqué. Et moi, personnellement, je ne sais pas faire ce genre de choses. S'il y a des gens qui savent le faire, tant mieux, c'est super cool. Mais je n'ai pas trouvé de truc ou même de message, ne serait-ce qu'un message qui puisse parler de façon assez claire, concise. Voilà.
On va avoir le temps de prendre une dernière question.
En fait, je pense qu'il y a différents types de publics sur Internet et la mamie du Cantal, elle va s'en foutre complètement d'héberger son serveur. Du coup, ceux qui pourraient... Enfin, c'est super bien l'auto-hébergement, ces choses-là, mais les informations, elles sont disponibles librement sur Internet. Il suffit de faire 2-3 recherches sur un moteur de... Et on va les trouver. Donc, si les gens veulent, oui, mais ils auront l'info.
Attention, non. Qui fait le contenu d'Internet? Il y a un truc... Il y a un problème de communication entre nous deux. C'est qui Internet? C'est quoi Internet? Qui participe à Internet si c'est pas nous?
Ouais, mais justement, on a plein de wikis, on a plein de pages.
Oui, mais il faut les alimenter, c'est constamment en évolution. Ça bouge tout le temps.
Un serveur mail, ça n'a pas évolué depuis 30 ans.
Oui,
ça,
non, je suis d'accord, je parle vraiment en termes de production de choses qu'on va mettre à disposition sur Internet. Il y a un article qui a été fait il y a 10 ans, il est plus valable aujourd'hui. On peut le modifier, on peut commenter, on peut apporter quelque chose. L'art, par exemple, c'est constant, c'est...
Okay,
il y a tout plein de contenus à créer, à modifier.
Je suis d'accord. Mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. Je veux dire, si on a un peu la volonté de chercher, on trouvera.
On est bien d'accord. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller malheureusement un petit peu piquer la curiosité des gens. Ils ne l'ont plus forcément. Merci à vous.